Pigeot Immobilier, la française immobilière, Habitants, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.
Coup d'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie, fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Madame, monsieur, bonjour, on est ravis de vous accueillir ce lundi encore sur le plateau de Pleine Lucarne. Après trois Pleines Lucarnes un peu frustrants liés aux résultats du Stade Rennais, eh bien cette semaine on est ravis parce que ça s'est bien passé. Le match qui était le match important, le match qu'il ne fallait pas perdre, eh bien les Rennais l'ont emporté face à Marseille. On va débriefer en long et en large ce match. Nous allons le faire en compagnie de Xavier Grimaud d'RMC. Bonjour Xavier.
Salut Vincent.
Ça va bien?
Oui, très bien.
On est avec Thomas Rassouli, un habitué des lieux, une fois sur deux, il est là avec ses surchemises que le monde entier lui envie.
C'est une vraie chemise, c'est pas une surchemise.
D'accord, ok, mais c'est un vrai t-shirt dessous.
C'est un vrai t-shirt, effectivement.
Salut Thomas.
Salut.
SRO, Stade Rennais Online. C'est bien. Les poids lourds du grand journal départemental, régional, interrégional sont avec nous. Guillaume Lenné d'Ouest-France, salut Guillaume.
Salut Vincent.
Et l'homme qui est dans l'ours, donc... dont le nom apparaît chaque jour dans le journal, c'est Edouard Escarona. Salut Edouard.
Quand vous dites en long et en large, ça n'a rien à voir avec nous, quoi. Le large.
Non, d'accord. C'est la longueur non plus d'ailleurs.
Okay.
Mais c'est pour parler de vous simplement. On regarde le résumé de Rennes-Marseille.
La belle ambiance.
Il y avait du monde, on était à guichet fermé, il y avait un beau tifo sur lequel on reviendra d'ailleurs. Premier en action, les Rennais avec Guéladoué, simplement pour chauffer tranquillement les gants de Paul Lopez. Voilà, petite banderie, celle-là va être beaucoup plus intéressante. Cette fois, elle est signée Blas, et là, le gardien est obligé de se détendre sur sa gauche. La frappe de Blas prenait la direction du but, bonne intervention de Paul Lopez. Réaction des Marseillais avec cette fin de Harit et ce tir qui ne prend pas la direction du cadre, mais on sait qu'en transition les Marseillais sont bons. Et puis voilà, regardez le beau travail de Terrier. Blas permet à Guiri de récupérer le ballon, Terrier redemande la balle, contrôle du gauche, frappe du droit, c'est impeccable. Regardez un peu l'absence quand même dans la défense, gauche, droite, 1-0, on joue depuis 20 minutes, on le met dans tous les sens parce que c'est vraiment un beau but. Il faut que Mandanda tienne la baraque sur la fin de la mi-temps, d'abord sur cette frappe de Aubameyang sur laquelle il se détend bien pour aller mettre le ballon en corner. Les Rennais ont quand même quelques occasions, des belles occasions comme celle-là, mais alors assez bizarrement, Kalimuendo met le pied opposé sur ce ballon qui lui arrive de Truffert. On se demande bien pourquoi, il y avait autre chose à faire. Et puis il faut quand même l'expérience de Mandanda sur la fin de mi-temps pour préserver le résultat et pour surtout rassurer son équipe, même si les Marseillais ne sont pas non plus extrêmement menaçants. 1-0 à la mi-temps. Des Marseillais qui repartent un peu plus fort, qui repartent un peu plus fort en deuxième période. La talonnade de Aubameyang derrière où glisse et permet à Mandanda de s'emparer du ballon. Il y a encore cette balle qui passe devant le but rennais sans que personne ne puisse la reprendre. Ce sont les deux seuls vrais frayeurs avec celle-ci évidemment. La troisième d'abord, poteau sur le coup franc de Aubameyang et derrière Moubania qui rate quand même quelque chose qui semblait assez évident. Ça tombe le petit filet. Regardez la tête de Mandanda qui fait ouf. J'ai eu chaud. Et puis, les Rennais vont se mettre à l'abri. Ballon de Terrier, une fois de plus, pour Truffert. Monsieur Vatelier dessine le point de pénalty. Regardez. Voilà, là, ça cogne le pied de Truffert. Ah, on y reviendra alors sur ce pénalty. Si vous n'êtes pas d'accord, Thomas Rassouli, transformé magnifiquement par la légende Benjamin Bourigeaud. Il prend sa revanche de la Coupe de France. Il ne se passera plus rien derrière. Rennes s'impose 2-0. Face à Marseille. Et regardez le classement. Voilà. Les 9 premiers se tiennent quand même en peu. Reims a gagné. Donc, il n'aurait pas fallu laisser partir Marseille, qui aurait eu 6 points d'avance. Rennes a fait plutôt une bonne opération. Mais, moi, la question que je vous pose, c'est l'Europe, plus que jamais, il faut y croire ?
Oui.
Allez, je ne suis pas timide.
Non, mais je ne suis pas timide. Oui, bien sûr, il faut y croire. 4 points de la 4e place. Bah voilà, tout est possible.
Mais l'Europe, quelle Europe ? L'Europe de la 7e, de la 6e, de la 5e, de la 4e, il faut être objectif aussi.
Au-dessus de la 4e, ça va être compliqué, je pense. Parce que les deux équipes de devant, hormis Paris, ça va être compliqué d'aller les chercher, je pense. Monaco a une bonne dynamique quand même.
Même si hier,
oui, mais ils prennent quand même pas mal de points.
Au revoir, je veux vous remontrer quand même le classement. Et je veux que vous me disiez, dans ce classement, quelle est l'équipe qui vous semble plus faible ou qui peut se faire dépasser par Rennes, parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait de mauvaise dynamique dans ces équipes-là. Hein.
Ce qui est sûr, et je pense que même si Lyon est encore pas mal de retard, il faut vous dire que les 10 premiers ne peuvent pas dire qu'ils ont renoncé à l'Europe. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a énormément de densité pour cette place, parce que je rajoute la 7e, parce que je pense que la 7e sera européenne si la Coupe de France est remportée par Paris ou...
Rennes.
Donc ça veut dire qu'il y a quand même des bons espoirs de finir au moins dans les 6-7 premiers. Après, la densité fait que les droits à l'erreur vont être de plus en plus limités et les confrontations directes vont énormément peser.
Ouais. Ce qui est dommage, c'est presque la victoire de Nice, en fait. Parce que Nice qui gagne à Lens, c'est quand même une surprise. Nice était dans une très mauvaise dynamique. On pensait réellement que c'était l'équipe qui pouvait sauter du top 6 au profit peut-être de Rennes, si Rennes faisait le métier. Le problème, c'est qu'ils ont gagné à Lens et que là, du coup, ils se sont bien relancés. Alors Monaco, effectivement, ils sont un peu au-dessus. Ça me paraît compliqué quand même les 4 premiers. Par contre, 5, 6, alors en espérant effectivement que la 6e place soit qualificative pour l'Europe. C'est plutôt là, à mon avis, dans les 5, 6, 7. Quoi.
Ouais, c'est surtout très difficile à prédire. Enfin, finalement, on a vu Brest la semaine passée qui perd malheureusement à Lens qui ne faisait pas un super gros match, Lens qui se fait battre par Nice, Brest qui finalement concède le nul contre Lille qui avait été extrêmement solide contre le Stade Rennais.
C'est difficile. Hein.
Ah ouais, voilà.
Ça peut jouer à quoi ? À des tensions de fin de saison, Xavier, oui, à des entraîneurs dont on ne sait pas s'ils vont rester ou pas rester.
Ça, je ne sais pas, aux dynamiques d'équipe, aux confrontations directes. Rennes sera obligé de bien négocier ses confrontations directes. Alors, c'est un peu impensif de le dire, mais là, ce sera plus que jamais. Ils n'ont quasiment pas le droit à l'erreur, les Rennais. Moi, je pense que la Coupe d'Europe qu'il faut se fixer, c'est même la plus petite, sauver la saison en étant européen. Ils ont gagné le droit de pouvoir y croire encore dans le sprint final, alors qu'à l'automne, quand même, ils en étaient très, 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 très loin. Ils ont gagné le droit d'y croire, et il y a vraiment moyen d'y croire. Maintenant, s'ils accrochent la Conference League, ce sera une saison... alors, ça ne sera évidemment pas dans les objectifs du début de saison, mais ce sera une saison qui serait plus que sauvée, même, vu ce qu'ils ont fait. Par contre, on voit que le match qui n'était pas censé être charnière, d'après Julien Stéphan, là, on voit quand même qu'il y est, parce que...
Celui de Marseille.
Bien sûr, parce que s'ils étaient à 6 points de l'OM, dans une dynamique avant la trêve, avec 4 matchs sans victoire, ça aurait été très compliqué.
Là, deux matchs à l'extérieur à suivre.
Pour redémarrer, ouais.
Mais ce qui manque, c'est des succès contre les gros, c'est-à-dire qu'ils ont battu Nice... seule équipe des 6 premiers.
Et autrement, Marseille aussi.
Non, Marseille n'est pas dans les 6 premiers.
Marseille est un gros.
Oui, mais ce n'est pas dans les 6 premiers. C'est-à-dire que les 6 premiers, vous devez gagner à Paris, vous ne gagnez pas. Vous devez gagner à Lille, vous ne gagnez pas. Et ces points-là, finalement, dans des confrontations directes face aux Européens, Lille, si vous lui prenez 3 points chez lui, il ne fait pas la différence, il maintient pas l'écart avec Rennes. Donc c'est ça, en fait, c'est des petits détails, mais des petits détails qui comptent dans ce bilan actuel.
Julien Stéphan, en tout cas, ne veut pas fixer d'objectif. Alors, je vais vous demander sans doute pourquoi. Il nous l'a redit hier soir en conférence de presse après le match.
Vous ne pouvez pas me poser la question à 2 mois et demi, est-ce que tu joues le maintien, et me demander maintenant, 2 mois et demi après, est-ce que tu joues l'Europe ou la Ligue des Champions. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Non, vous ne pouvez pas. Donc, pourquoi ? Parce que ce n'est pas... Non. Oui, le classement a changé, bien évidemment. Moi, je vous dis, on continue à réfléchir à ce qu'on peut faire dans les contenus des matchs. Et si les contenus sont bons, on prendra des points. Voilà. Et on va rester focalisé là-dessus, sur le contenu de nos matchs, sur la préparation de nos matchs, le plus longtemps possible, parce que je pense que ça correspond bien à ce groupe-là également. Mais soyez bien certains qu'on a beaucoup, beaucoup d'ambition. Voilà. Beaucoup. On a beaucoup d'ambition entre nous, mais on n'a pas besoin d'afficher ni publiquement, mais ni même des objectifs de classement. On a par contre beaucoup d'ambition sur la progression encore de l'équipe et sur certains axes d'amélioration qu'on devra avoir sur la dernière partie du championnat.
Comprenez ce discours de pas dire...
C'est le grand classique de communication. Sûr, franchement, c'est vrai que c'est un peu barbant, entre guillemets, parce qu'il nous rappelle toujours un peu la même chose là-dessus, alors que nous, on passe notre temps à écrire des papiers, y compris nous, pour dire... Voilà,
objectif Europe, aujourd'hui.
En tout cas, forcément, c'est ce qui intéresse les gens, c'est de savoir quel enjeu Rennes peut avoir sur la fin de saison. Si on parle pas d'Europe, on parle de quoi ? Forcément, c'est... grâce au parcours qu'ils ont fait depuis le mois de janvier, on doit parler d'Europe, puisqu'ils ont fait un parcours d'Européens depuis le mois de depuis le mois de janvier. Donc forcément, ils sont dans la course, forcément, on en parle. C'est logique. Donc là, il a un discours de protection, un peu de... Mais ouais. Il ne faut pas trop de pression, on ne te met pas trop de pression.
C'est une posture.
C'est une posture, parce que depuis qu'il est arrivé, il nous a dit, ma feuille de route, c'est de relever l'équipe. Il est en train de le faire, donc là, il remplit ses objectifs. Imaginez qu'il nous dit hier, par exemple, bon, bah, l'objectif, c'est d'être européen et qu'il n'y arrive pas, bah, il ne sera pas dans ses objectifs. Donc là, finalement, il se met, je ne vais pas dire qu'il ne se met pas en danger, mais c'est une posture de communication
qui est intelligente. Qu'il n'aurait peut-être pas fait lors de son premier passage, Edouard.
Oui, il apprend. Vous savez,
il est plus réservé.
Et puis il a raison, c'est tellement fragile. Quand ils reçoivent Lorient, tout le monde s'attend à ce qu'ils gagnent tranquillement. À l'arrivée, ils perdent. Je pense que c'est un championnat qui est compliqué. Regardez Monaco, ils menaient contre Lorient. Finalement, ils font match nul à domicile. Donc il est prudent, c'est normal d'être prudent. Vous revenez de loin. Et il n'y a rien d'acquis alors qu'il est, ils ne sont pas européens.
Ouais. Ce n'est pas tellement différent de ce que font les autres coachs de Ligue 1, y compris son prédécesseur. Bruno Genesio, c'était toujours la même chose. C'était la protection du collectif, ne pas afficher des objectifs un peu trop grands. On avait l'impression qu'on câlinait un petit peu cette équipe-là.
Enfin, il n'y a que Florian Maurice sur ce plateau, ici, à la place d'Edouard Escarona, qui lui dit objectif, Ligue des Champions.
Ce qu'il prend quand il le
dit. Ça lui a été reproché parce que quand vous annoncez des objectifs comme cela, vous attendez des noms, vous attendez des recrues. Et à l'arrivée, le début de saison catastrophique, ça rajoute de la pression et ça fait que afficher de l'ambition, c'est toujours un peu risqué. Et Julien Stéphan, dans sa situation, mais il est prudent.
Mais ça n'empêche pas qu'il vise l'Europe. Hein.
Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le même discours qui est tenu dans le vestiaire. Non, la preuve, les plus jeunes font des boulettes et donc nous le disent.
Oui, enfin, les joueurs nous disent c'est l'Europe.
Et les moins jeunes d'ailleurs, j'ai un Bourigeau, il confie hier.
Les joueurs l'ont dit hier.
Oui, voilà.
Ok, objectif. Europe. Donc on va revenir sur ce match qui a permis justement d'avoir toujours cette dynamique et d'espérer parce que c'était un match charnière, on en était tous intimement persuadés. Et alors une heure avant le match, la compo tombe et alors nous on tombe tous de nos chaises, on n'avait pas vu du tout venir ça, Guillaume.
Bah non, ça c'est sûr. La charnière centrale de droitier ou aligné axe gauche à la place de Bellocian qui était censé remplacer Théâtre, qui était forfait. Blas, Bourigeau, relayeur. Guiri, qui était excellent dans un poste d'attaquant axial derrière Kalimundo, qui est décalé à droite. Changement de système, 4-4-2, 4-3-3. Bref, on a eu une série de choix assez forts, quand même, mine de rien, du coach. On a vraiment douté, sincèrement, au départ, de se dire est-ce que c'était quand même ça.
Edouard, on lui a dû lui donner des selles pour qu'il était déjà tombé. Il disait quelle défense, il était fou.
Ce qui était tombé, c'est de vous voir manger autant de galettes de saucisses.
Ouais, mais en attendant, vous étiez limite écumant quand vous avez vu la composition de cette défense.
Je dirais que c'est une composition stéphanesque, c'est-à-dire qu'il est capable de surprendre. Et vous vous souvenez, le fameux Julien a un plan. Et là, il a eu un plan et le plan a marché. Donc, s'il n'avait pas marché, vous seriez le premier avec votre fils à vous en plaindre. Mais là, en l'occurrence, on peut penser qu'il a réussi son pari.
Faut pas dire que Julien a un plan parce qu'il n'aime pas ça.
Non, il n'empêche quand même que. C'est une signature de Stéphane que de s'adapter à l'adversaire. Oui.
C'est la grande différence avec Bruno Genesio avant, c'est que Bruno Genesio avait souvent un plan A qui était assez costaud et pas forcément de plan B qui tenait la route par la suite quand ça se passait mal. Là, Julien Stéphane, il s'adapte énormément. C'est-à-dire qu'en 2024, il y a quand même une grosse tendance à jouer en 4-4-2, mais il nous a sorti 4-3-3 ici contre le Milan au match retour aussi. Un 4-2-3-1 contre le PSG. Enfin voilà, il s'adapte vraiment à son adversaire.
C'est le latéral gauche à Parc et qui va refaire d'ailleurs à mon avis plusieurs fois.
Ouais, on parlait de la composition de ce match-là, la composition du PSG nous avait estomaqué pareil. Avant, quand on la voit sortir, on se dit mais
c'est quoi ses choix. Il explique bien
pourquoi plutôt que Bellocian.
Exactement, pour le côté physique, Christopher Wu est plus physique que Bellocian. Il s'attendait à un gros défi avec évidemment la qualité des attaquants marseillais. Et puis après, il change de système, mais bon, il y a quand même 5 joueurs offensifs, 5 joueurs très techniques. Donc ça reste une composition qui est très offensive et qui a permis de voir des mouvements intéressants, notamment en première période, parce que la deuxième mi-temps, l'ensemble du match, je trouve pas que ce soit un match de très 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 haut niveau qu'on a vu hier.
On va en reparler.
Ça a donné une composition qui finalement a amené de la technique.
Il a pris la main parce qu'il y avait eu quelques petites critiques, quelques petits débats en tout cas sur les choix précédents sur Lorient et puis sur le match de Lille. Changement tardif contre Lille, Guiri sur le banc contre Lorient. Bon, on s'est quand même pas posé des questions. Il s'était justifié après coup sur ces choses-là. C'est vrai que pour le coup, les résultats n'avaient pas été au rendez-vous, donc forcément on en parle. Là, le résultat est là.
Ah oui.
Forcément, les choix sont gagnants. Et puis, il ressort encore à Gaillardi dans une période où, en plus, évidemment, il devrait prolonger son contrat.
Oui, et alors, c'est à la lecture de la feuille de match, surtout, on se dit tous, il n'est pas doué. Doué qui était suspendu, qui était en pleine. Et il explique aussi, doué. Oui, il dit qu'il va venir en deuxième mi-temps.
Oui, c'est ça. Dans le scénario qu'il imaginait du match, il pensait que Doué, qu'il, j'imagine, il arrive à bien lui expliquer son choix, parce qu'on peut imaginer la frustration de Désiré Doué, qui était déjà suspendu le match d'avant, qui est quand même performant ces dernières semaines. Apparemment, il arrive à bien lui expliquer qu'en rentrant, il aura des situations pour être bon. Son entrée à Doué, elle est plutôt bonne dans une deuxième mi-temps qui est moyenne. Mais voilà, il implique aussi tout le monde de manière assez intelligente.
Ça s'est vu, d'ailleurs, au moment où Doué va entrer, il lui parle très longuement. De manière très rapprochée pour lui expliquer, lui donner des consignes. Donc on sent qu'il y a un traitement un petit peu particulier aussi, quoi.
Alors on voit qu'il a relancé plein de gens, hein. Il a relancé il a relancé Blas. Le seul qu'il n'a pas relancé, c'est Bélossian.
Oui, mais surtout on voit que l'effectif au coup d'envoi, c'est celui sans les recrues du mercato d'hiver.
Incroyable.
Donc ça veut dire que cette équipe-là avait peut-être plus de ressources.
Ça m'a interrogé.
Mais sans presque recrues tout court.
Ça s'est pas vu.
Mais sans presque recrues tout court. Il y a Blas. C'est le seul joueur du 11 des recrues de l'été qui démarre. Alors c'est vrai que le fait était absent. Voilà, mais malgré tout, il y a très peu de recrues.
Oui.
Hein.
Oui.
Donc ça veut dire que ce groupe a progressé. Parce qu'en début de saison, c'est à peu près le même effectif avec des résultats qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Donc on peut dire que Blas, le Blas d'aujourd'hui, ce n'est pas celui du début de saison. Guéla Doué a pris une dimension.
Vous voulez dire que ils ont plus progressé avec Julien Stéphane qu'ils ne l'auraient fait avec Genesio.
Il y avait un problème avec Genesio, avec cet effectif. Il y avait un problème. Ça tournait en rond, ça ne progressait pas. Et là, on a aussi des joueurs qui sont en confiance. Et quand vous gagnez, c'est plus facile de s'épanouir. Et Blas, typiquement, fait des efforts aujourd'hui sur le terrain qu'il ne faisait pas sur les premiers matchs de la saison.
La mi-temps, justement, le match, vous ne l'avez pas trouvé exceptionnel. Moi, j'ai vu deux mi-temps très différents.
J'ai bien aimé la première mi-temps. J'ai bien aimé la première mi-temps de Rennes, notamment. Je trouvais les Marseillais vraiment un peu apathiques. Alors, peut-être apparemment physique, ils l'ont dit, physiquement, ça tirait, et c'est certainement vrai. La deuxième mi-temps de Rennes, j'ai senti dans une gestion que je comprenais, parce que vu les points qu'ils avaient perdus et à Paris et à Lille, bon, ils étaient quand même devant. C'était très important de les cadrer, les Marseillais, de pas s'ouvrir. Mais ça a donné une deuxième mi-temps qui était un peu triste. N'est pas d'un haut niveau et technique et physique et dans l'intensité. Mais après, c'était aux Marseillais, après tout, de faire le jeu. Et le deuxième, le pénalty qui est du 2-0, voilà, bon, on peut en reparler, mais bon, il y est. En tout cas, il tombe à point nommé pour ensuite tuer le match.
C'est le cas de le dire.
Sinon, mais ils sont pas allés chercher les Marseillais très très haut sur ce match-là. Non. Le bloc équipe était médian. Effectivement, il y avait deux lignes qui étaient bien organisées, même au départ du match, même la première période. Moi, j'ai pas trouvé que c'était une équipe de Rennes qui allait chercher très très haut les Marseillais. C'était plutôt, effectivement, un plan, on avait bien senti que le plan était quand même de bien fermer les espaces d'abord et de profiter des coups pour voilà.
Il y avait un gros décalage en fait entre l'avant-match qu'on a pu faire à évoquer des comparaisons avec l'approche du match de Milan, du match retour contre le Milan, dans l'intensité qu'il fallait mettre dès le début. Terrier nous avait dit c'était un match qu'il fallait emballer assez vite. Il y a eu un gros décalage quoi, entre l'intensité mise et ce qui a été fait.
Christophe Penven parlait, lui, d'un match européen pendant toute la première mi-temps. Il dit que c'est un match de niveau européen avec une intensité européenne.
La question, c'est qui est Christophe Penven ?
Christophe Penven, pour les gens qui ne suivent pas Fréquence, c'est un monsieur qui est assis là régulièrement, qui est très, très optimiste. Là, la Ligue des Champions ne fait plus aucun doute pour lui. Mais non, il y avait un niveau européen.
Non, c'était intense dans les duels. Moi, j'ai trouvé que l'équipe a très bien... dans le rythme, dans l'intensité, dans le défi athlétique.
Parce que je lis aussi, Marseille était cuit. Et vu l'intensité physique que met Marseille, ils m'ont pas semblé cuit quand même.
C'est une équipe qui est plus physique que Rennes. Non, mais athlétiquement, ils sont plus armés que Rennes.
Mais Marseille avait l'état physique que Rennes a eu contre Lorient. C'est normal. Vous sortez d'une semaine avec deux matchs contre Villarreal. Vous avez une intensité aussi de rendez-vous. Et ils avaient sans doute un peu moins de jus, ce qui explique d'ailleurs que Rennes, en début de match, est mieux que Marseille. Et Marseille est mieux sur le début de la deuxième mi-temps, parce que quand vous êtes fatigué, vous avez toujours du mal à mettre en route. Mais après, la deuxième mi-temps, encore une fois, Marseille a mis plus d'intensité parce que Rennes a accepté aussi l'intensité de Marseille. Donc il y a un peu des deux, mais je trouve que dans la gestion, par rapport au match de Lille, il y a quand même de nets progrès.
Première défaite de Gasset en championnat, c'est quand même notable. Il dit on a fait jeu égal avec Rennes.
Oui.
Je pense que la victoire de Rennes est méritée. Sur l'ensemble du match, je le vois comme ça. Mais on ne peut pas dire non plus qu'ils aient surclassé les Marseillais.
Si le coffrant d'Aubameyang est au fond, vous ne savez pas du tout quel est le sort de ce match. Ça ne tient pas à grand-chose.
Je vais vous montrer d'autres actions où, effectivement, Rennes aurait pu aussi aggraver le score. Regardez, au tout début de match, cette passe, là, tout le monde en veut à Kalimuendo parce que là, il y a moyen de mettre un ballon dans la profondeur. Et regardez le nombre de ballons, là, par exemple. Voilà. mauvais contrôle de Guiri, donc ça va trop loin. C'est des balles de contre. Rennes aurait pu marquer quelques buts. Regardez, il y a ça aussi avec Guéladoué. Regarde, il lève la tête, mais voilà, il pose son ballon trop loin.
Marseille aurait moins pu marquer, forcément, parce qu'ils ont cadré qu'une fois.
Pour la mi-temps, la frappe d'Aubameyang poteau, c'est un bel arrêt de Mandanda.
Et là, c'est le seul qu'il a à faire, finalement.
Oui, mais à ce moment-là du match, si vous marquez, voilà. Donc, c'est des faits de match comme à Lille qui font que ça tourne en faveur de Rennes, mais il n'y a pas la ligne droite de Longchamp entre les deux équipes, et c'est normal.
Ça, c'est une expression.
Ouais, Et c'est pour ça que vous envoyez un truc sur les expressions. Hein.
Sur les expressions toutes faites, il y en a un paquet. Voilà. La ligne droite de Longchamp, elle est bien.
Et puis Cyril Roland, on n'avait plus entendu ça.
Non, pour les plus jeunes.
C'est pour les plus jeunes, ça ne veut rien dire, mais c'est comme les chemises, hein, ça, c'est intemporel. Mais encore une fois, les deux équipes, elles sont à peu près. Elles sont au même classement, donc ça veut dire qu'elles ne sont pas très éloignées l'une de l'autre, et non, c'est logique d'avoir un match serré.
Alors, j'aurais juste dire un mot quand même sur le public que j'avais trouvé totalement absent contre Lorient et que j'ai trouvé très bon hier. Je ne sais pas vous.
Le tifo déjà de départ.
Enfin, on va le voir, le tifo.
Les animations étaient géniales.
Alors, assez bizarrement, tifo pas compris par Edouard Rescarona, qui pense que c'est un hommage à Marseille.
Je croyais juste que c'était un supporter de Marseille avec la tunique bleue qui emmenait un jeune enfant de Rennes, mais je me suis trompé. Non, je plaisante, bien
c'est
sûr.
C'est un jean, vous savez, c'est des choses que les gens portent.
Un peu délavé, du coup.
Non, c'est un super tifo. Alors, c'est vrai que pour les pères de famille que nous sommes pour la plupart autour de la table, ouais, ça parle d'imaginer.
Pour la plupart.
Pour la plupart, pour encore quelques années, bien sûr. Non, mais ça parle, voilà, la transmission de la passion pour le foot, c'est très beau tifo. Et alors, ça n'a un peu rien à voir, mais pour profiter de cette ambiance.
Que des filles, donc.
Pas du tout, mais c'est vue aérienne avec les drones qu'on a depuis quelques matchs. C'est vraiment magnifique. Ça donne vraiment et même pendant les directs, on voit des images du stade en drone. Ça, c'est vraiment superbe.
On va parler des joueurs. Alors, je vais vous énerver tous, les gars. Tu sais, on va parler de l'arbitre.
Oh là là.
Oh non.
Il a été bon.
On va quitter le plateau.
Il a été bon.
Pourquoi alors, j'en parle
la parce bise que... à Longoria.
Voilà. Quand, j'en parle parce que. Alors, monsieur Vatelier, c'est celui qui appelle l'arbitre au Parc des Princes pour ce pénalty absolument inique. Là, maintenant, tout le monde est bien d'accord.
Il l'a appelé deux fois aussi sur le premier. Et grâce à lui, quand même, il n'y a pas eu péno avec Guéladoué.
Oui. Bon. Mais.
Soyons justes, monsieur.
Donc, c'est comme celui qui est à la. C'est l'arbitre du match. On arrive, on se dit oh là là, Vatelier, Madame Frappard à la VAR. Et alors, certains collègues le voient arriver dans le stade, monsieur Vatelier. Vous ?
Oui, c'est vrai que c'était assez marquant.
Expliquez-nous ce qui se passe.
Le contact entre le président de Marseille et l'arbitre était
complot.
Assez.
C'est l'instant complot.
Écoutez, voilà. Qu'est-ce qu'il fait ?
Non, j'avoue que j'étais assez surpris par le contact entre le président de Marseille et l'arbitre avant la rencontre. C'était assez chaleureux, j'ai trouvé.
Ils s'embrassent carrément.
Non, ils s'embrassent pas. Poignée de main très très chaleureuse et ils échangent pendant très très longtemps. Mais après, il est vrai qu'Eric Vatelier a parlé longuement avec Benjamin Bourigeaud aussi. C'est un arbitre qui est peut-être plus dans le contact que d'autres arbitres en Ligue 1. Mais c'est vrai que ça fait bizarre dans le contexte actuel où tout le monde s'oppose aux arbitres de voir un petit peu cet avant-match.
Il a peut-être fait la bise à Florent Maurice, on l'a pas vu par contre.
Non, il l'a pas fait.
Peut-être.
Ah, c'est vrai. On l'a regardé. On l'a pas vu. Mais bon, il a été très bon. Et on le dit, il a été bon. Il a laissé jouer beaucoup.
C'est un des arbitres qui laisse le plus jouer en Ligue 1, parce que parfois il y avait des contacts qui étaient assez durs. Mais oui, pour siffler, il faut vraiment qu'il y ait faute. Moi, j'aime bien le rythme. Je trouve qu'en plus, il a de l'autorité sans faire shérif. Et puis, sur le pénalty, il a bien jugé. Et je trouve qu'il a eu du cran après le pénalty sur la simulation de Sarr de lui mettre un jaune sans sourciller. Il aurait pu un petit peu réfléchir.
Regardez, il y a des fautes là.
Ouais, mais justement, dans ce type
de
match.
Allez, et ça joue toujours.
Dans ce type de match où il y a énormément de duels, ça aurait pu être un arbitre qui siffle beaucoup. Ça aurait pu être un match horrible à suivre, très haché.
Vous avez raison.
Finalement, moi, je trouve quand même que vous avez tendance à être très sympa avec les arbitres quand Rennes gagne en fait.
Alors c'est faux. Ce qui est totalement faux.
C'est incroyable cet arbitre.
Et les gens qui sont habitués de cette émission le savent, même quand Rennes perd, quelquefois les arbitres sont bons. Le péno, justement, et là je citais Christophe Penben, mais je peux citer François Rosier qui me dit « Je serais Marseillais, je trouverais que c'est un peu exagéré le péno ». Le pénalty, on le revoit.
Moi, ça me choque pas.
Il le touche, et quand vous êtes à cette vitesse-là de course, vous touchez à peine le pied, vous êtes.
On en voit beaucoup des pénaux comme ça. Franchement,
la VAR n'est pas appelée, là.
Madame Frappard. Si, ça a été checké.
Regardez.
Qui était la VAR, d'ailleurs, appelée.
Madame Frappard. Voilà. Alors, sur cet angle-là, c'est pas évident.
Non.
Mais oui, oui.
Sinon,
mais sur.
Sinon, plutôt que.
Sur celui-là. Là. évident.
Sinon, plutôt que de débriefer le pénalty, on peut peut-être parler du super match de Truffert aussi.
Alors, on y viendra. C'est après, c'est après tout ça hein, qu'on en parle. Un truc
c'est
nouveau.
Non,
mais on va. Un truc nouveau, alors qui est insupportable, c'est cette façon qu'ont les gardiens de venir provoquer maintenant le tireur. Regardez,
c'est pas cette façon qu'ont les gardiens. C'est quand même, ça fait deux fois qu'on a le débat, c'est le même gardien. Donc
mais c'est pas le vous avez vu le gardien de Rouen en Coupe de France, ouais. Il fait la même chose. Alors, tout le monde vient provoquer le tireur.
Il commence d'abord par faire un trou à l'endroit du point de pénalty, c'est-à-dire pour empêcher le ballon d'être bien positionné. Donc il creuse, c'est pour ça que tout le monde s'énerve. Il creuse pour faire un trou à l'endroit où il y a la craie.
La technique de la taupe.
Sors de ce corps, Pierre Lecomte.
Mais non, c'est vrai. Mais c'est vrai. Regardez, c'est pour ça que tout le monde s'énerve. C'est parce qu'il était en train de creuser un trou à l'endroit de poser le ballon.
Mais ça, c'est encore vraiment... une fois, c'est plutôt bien géré quand même. L'attaquant comme le gardien prennent un carton. Et c'est des situations sur lesquelles les arbitres sont quand même attendus. Pendant la Coupe de France, vous l'évoquiez, on a beaucoup aussi souligné le fait que les arbitres laissaient trop faire finalement et que les gardiens n'étaient pas forcément punis. Là, il prend avertissement dès la première.
C'est nouveau, hein.
C'est pas bien méchant comme situation.
C'est un peu dans le folklore.
Petite guerre psychologique pour gêner l'attaquant. Bon, ça va.
Ouais, non, c'est pas bien méchant. C'est un peu. Heureusement que.
Vous êtes un mec poli, qui n'avait pas. Ouais. Cette petite provocation.
Benjamin Bourigeaud
sur un terrain.
Vous ne verriez jamais Mandanda faire ça.
Non,
qui
vrai.
Sait.
C'est
une voilà.
Et Mandanda, on l'a vu à la fin du match et il nous a parlé de cette rencontre. Écoutez, Steve Mandanda.
Quel enchaînement. C'est un match important, effectivement. On l'a très bien négocié. On a fait le match qu'il fallait. On a été solide, on a été efficace devant et ça, c'est très important. Maintenant, ça nous permet de rester collé à l'Europe. Il reste encore pas mal de matchs avec des confrontations directes. Donc c'est bien, ça nous permet de continuer à espérer. Et maintenant, à nous de garder ça. On a démontré sur les derniers matchs qu'on était capable de faire de bonnes choses. Aujourd'hui, on a fait de très bonnes choses et on a été solide aussi et on a tenu. Et ça, c'est le point très positif. Donc on est content et on continue. Voilà.
Voilà la question à laquelle Steve Mandanda voulait répondre en zone mixte. On va regarder les notes des joueurs après ce match et elles sont plutôt bonnes. Voilà, avec des 7 hein, pour Truffert, on va y revenir, pour Bourigeaud, la légende, pour Terrier, le buteur. Et puis on voit que ça monte, hein, Mandanda, toute la défense. La défense qui vous faisait tellement peur, Edouard, ben elle a des bonnes notes. Et Kalimuendo a la moyenne parce qu'il a la moyenne, mais pour certains, il ne l'a pas tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes choqué, pas choqué?
Je l'ai pas trouvé catastrophique personnellement. J'ai trouvé que dans le jeu, dans le jeu d'intervalle, avec du jeu redoublé des passes, avec Terrier qui rentre dans l'axe, avec Gouiri qui rentre dans l'axe, c'est un joueur avec qui vous pouvez combiner parce qu'il a cette capacité-là. Après, si vous attendez de Kalimuendo qu'il aille au duel face à des Golgoths, il n'est pas capable. C'est pas son jeu, mais c'est pas pire que ce qu'on a vu.
Il est honnête d'y être allé là pour le coup.
Bah, il y va toujours.
S'il s'est fait secouer pendant 90 minutes, quoi. Donc vraiment, si par les deux centraux.
Après, forcément, c'est un avant-centre. Il a touché deux ballons, je crois, dans la surface de réparation. Ouais. C'est sûr que c'est un peu problématique pour un avant-centre.
Il y a combien de buts depuis le début de la saison?
On juge un attaquant sur sa capacité à être dangereux aussi face au but. Là, il est très utile dans le collectif. Ça, on ne peut pas lui reprocher ça, mais
Aubameyang
on
n'allait
pas lui mettre 6 ou 7 alors qu'il ne s'est pas créé une seule occasion. Voilà. Moi, je suis tout à fait choqué.
Il y en a une qui prend mal la
reprise.
Pied opposé. La défense, avec des bonnes notes, une défense très concentrée. Alors, pour le compte et pour le coup, défense jeune.
Avec un très bon goût, surtout dans
l'impact.
La défense sera toujours jeune.
Oui, c'est vrai que la défense sera toujours jeune.
Christopher Wu, l'impact qu'a mis justement sur le plan athlétique Christopher Wu sur ce match-là, là pour le coup c'était le choix de Stéphane et c'est pour ça qu'il l'avait mis. Là ça a vraiment fonctionné.
Et l'arbitre lui a permis de mettre cet impact. Oui. C'est-à-dire que quand il sortait sur les possessions, il mettait avec vraiment du physique et l'arbitre laissait jouer. Donc ça c'est quand même pas mal.
Il envoyait vraiment un message quand il sortait. Il aurait dit bien.
Aubameyang, il a eu un bon message sur le. Et l'arbitre n'a rien dit parce qu'il avait pris le ballon en premier.
C'est une belle réaction de Wu aussi qui était peut-être un peu coupable sur les buts à Lille en fin de rencontre. Où il est un peu perdu en concentration, mais là c'est bien d'avoir réussi à enchaîner sur ce match.
Je l'ai vu faire 2-3 passes longue ligne pied gauche, donc du coup on se dit ça peut être d'ici la fin de saison une option centrale gauche si jamais il y a besoin.
Ça aussi à mettre au crédit de Stéphane, de relancer des joueurs, parce que il part de loin, Avant la CAN, il est invisible dans l'effectif rennais.
Bah, avant la CAN, il joue un petit peu quand même quand Stéphane arrive dans leur système à 3. Ouais, c'est au retour de la CAN où effectivement, bah, c'est la loi du foot, il perd sa place finalement. C'est lui qui avait eu cette formule d'ailleurs. C'est la loi du foot après le PSG, il avait dit bah, voilà, les concurrents étaient meilleurs quand j'étais pas là, c'est eux qui jouent.
Et à l'arrivée, dans une saison, il fera son quota de match, donc comme quoi, dans un effectif où à son utilité.
Ouais. Truffert, alors
Ouais, très bon match, franchement.
Très bon match,
un de ses meilleurs pour moi de la saison, la première mi-temps surtout.
Je me demande si c'est pas un de ses meilleurs du maillot rennais.
La première période au niveau du déchet, alors c'est souvent un joueur qui a beaucoup de déchets, évidemment les latéraux ont souvent beaucoup de déchets. Lui, pour le coup, il n'y en a eu quasiment aucun pendant 45 minutes, ce qui est quand même rarissime.
Il n'y en a eu aucun.
Sur ce poste-là.
100% de passes réussies, 0.
Non, il y a eu, mais 98, je crois, mais bon, bref, c'est quand même quasiment du
100%. Mais il a fini fatigué, c'est pour ça qu'il est sorti, parce que ça commençait à décliner, le coup franc vient de lui, hein. Regardez sur la frappe sur le poteau, celui qui suit pas l'attaquant, qui reprend, qui frappe à côté, c'est lui aussi. Donc voilà, il a beaucoup donné sur le début, parce que Sarr, c'est un client quand même, hein, il vous met toujours la pression, et notamment sur le plan athlétique, mais je trouve qu'il a été très bon. Après, le fait qu'il ait eu envie d'aller à Marseille il y a quelques semaines, l'aide peut-être à se motiver contre Marseille.
Eh ben ouais, exactement. Je me suis dit, tiens... Oui, je ne sais pas s'il a toujours des touches, mais là, en tout cas, il a marqué des points. Même s'il y a Quentin Merlin.
Mais il a quand même pour lui qui vient d'arriver.
Globalement, c'est un joueur qui fait pas toujours des bons matchs parce qu'il y a beaucoup de déchets, parce qu'il y a des erreurs de placement défensif. Après, si vous regardez son volume de jeu global, c'est vrai qu'il y a pas mal de critiques sur Truffert un peu à droite à gauche, mais si vous regardez quand même le volume de jeu de Truffert à tous les matchs, c'est quand même assez impressionnant, les efforts qu'il produit, les allers-retours. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours très juste. Et là, ce qui était surprenant hier, c'était ça en fait. C'était qu'il était extrêmement juste.
C'est-à-dire qu'on lui reproche toujours exactement ses errements défensifs. Après, il faut quand même regarder le profil. Quoi. Il a 22 ans, il a joué 150 matchs, il a des touches dans pas mal de clubs européens. C'est un joueur qui a connu Julien Stéphan, Bruno Genesio, Julien Stéphan, et qui s'est débarrassé de tous ses concurrents quand même. D'Albert, Fetoumawassa, on les a oubliés, hein. D'Albert, Fetoumawassa, Birger Meling qui est jamais passé devant. Donc voilà.
Comme dans une époque.
Mais non, mais à un moment quand vous êtes tout le temps numéro 1, c'est peut-être qu'il y a une raison quoi.
Alors donc, il peut progresser encore effectivement sur le purement défensif. Et puis on l'a vu hier avec Klaus. C'est la qualité des centres. C'est-à-dire que Klaus, quand il centre, c'est toujours quasiment des ballons de but. Hein. C'est toujours dans la zone. Donc Truffert peut aussi améliorer cette qualité de centre.
Et puis on a vu le retour aussi, vous l'avez tous souligné dans vos médias respectifs, de Terrier, qui avait eu beaucoup de mal, qui fait en tout cas une très bonne première mi-temps. On le voit un peu moins en deuxième, mais il est actif. On va revoir son but parce qu'il est beau. Il est au départ et à l'arrivée.
C'est l'entame de match, hein, surtout, de Terrier, qui est vraiment très, très, très bonne.
Quelle élégance.
Et surtout, il a retrouvé un positionnement qui était celui que lui a donné Bruno Genesio, c'est-à-dire sur un côté, et qu'il avait tendance à revenir dans l'axe. Ouais. Notamment, on l'a vu refaire des duels à la tête sur les longs dégagements de Mandanda. Donc voilà, c'est un Terrier... qui revient, et c'est normal qu'il ait eu un coup de moins bien. Il faut toujours se souvenir qu'il a été absent pendant plusieurs mois.
Ah, quand je disais élégant, je vous voyais opiner, Xavier.
Imaginez si je jouais avec votre chemise.
Non, c'est la grande classe. C'est un superbe joueur de foot. Martin Terrier, son contrôle, il n'est pas simple, hein, sur la passe de Goury. Le contrôle est parfait pour frapper du droit. Il a été en mouvement. Le premier but, c'est vraiment un jeu de mouvement, comme Rennes sait le faire, assez combiné. C'est vraiment un très très joli but. Et de toute façon, Rennes ne sera pas européen si Terrier n'est pas bon. C'est son buteur numéro 1. C'est lui qui a le meilleur sens du but dans l'effectif. Donc ils ont vraiment besoin d'un Martin Terrier. Le petit coup de mou, a priori, c'était physique, il l'a expliqué. Là, il s'était bien calibré cette semaine, il est venu en conférence de presse, il a fait un autre média aussi, où il avait vraiment l'air d'être concentré, d'avoir coché ce rendez-vous pour montrer un peu avant la trêve qu'il était de retour, et il a répondu présent, donc ça, c'est plutôt bien. Et
surtout, il joue face au but. Enfin, dans cette position-là, sur toujours le côté gauche, moi, je pense que c'est ce qui est déterminant. C'est qu'il n'est plus dos au but comme il est quand il est dans un 4-4-2 avec Elimwendo. C'est quand il part comme ça de son aile et qu'il peut... Le but, c'est exactement l'exemple de ça, quoi. Oui. C'est vraiment, pour moi, c'est ça son jeu, à Martin Terrier.
En position offensive, il joue pas sur un côté. Hein. Il était attaquant axial. Hein. Ouais. Il jouait quasiment en soutien. Ouais. C'était vraiment un attaquant axial. D'ailleurs, on était quasiment sur un système en 3-4-3. Il y avait quasiment trois attaquants en position offensive. Donc, c'est sa liberté. Surtout qui fait qu'il est bon quand il est en jambes.
Tout ça montre qu'il y a des options quand même.
Hein. Vous qui passez des heures à regarder les fléchettes sur Eurosport, ça doit vous plaire.
Les darts, on se rend pas compte, mais c'est incroyable, une ambiance incroyable. Vous préférez le MMA, et je sais qu'on en reparlera, aux fléchettes, mais c'est pas du tout le même sport. Mais les fléchettes, c'est une ambiance extraordinaire. Extraordinaire aussi l'ambiance, et on va voir les images de la journée de Benjamin Bourigeaud. quand même, dès l'arrivée, avec le bus, l'accueil. C'est son 301e match, donc puisqu'il a fêté les 300 la semaine dernière à Lille. Donc voilà, il salue les supporters qui ont toujours un mot sympa pour lui. Puis alors, regardez comment il regarde le tifo. C'est un des seuls qui regarde très longuement les tifos qui sont faits. Et puis alors, à la 14e minute, il y a ça pour lui, parce qu'il porte le numéro 14. Il jette un œil très rapide, mais il va nous dire après qu'il n'a pas eu le temps d'apprécier parce qu'il est concentré dans le match. Il va quand même marquer le but. Il va aller le célébrer d'une façon...
Les bras en croix comme un
génial, ouais. Génial. Et puis à la fin, eh ben, on lui offre une bâche.
Ouais.
Voilà. Il s'est fait bâcher. Il y a des gens qui n'aiment pas se faire bâcher, ben lui, oui. Voilà. Ah ouais, c'est... Alors, pas sûr que ça soit affiché chez lui. Il a dit, je vais demander à madame.
Ouais.
Il ne va peut-être pas l'encadrer. On a rencontré un joueur à la fois ému et hyper heureux. Et ça fait plaisir. Écoutez, Benjamin Bourigeaud, on en parle après.
Il y a de l'amour à travers tout ça, puisque voilà, ça fait 7 ans que je suis ici, 7 ans qu'on partage la même passion à travers nos couleurs de club. Donc voilà, on est tous ensemble. Hein. Il n'y a pas que les joueurs, il y a les supporters, il y a tout un club, tout un peuple derrière. Comme je l'ai dit avant de signer ici, je serai Lensois à vie, mais je suis aussi Rennais à vie, parce que voilà, ça fait partie de ma vie. J'y ai partagé des émotions immenses. Encore plus aujourd'hui sur le plan personnel. Donc voilà, moi je suis ici pour ça, pour vivre encore des émotions. Donc voilà, je suis pleinement satisfait d'avoir signé au club. Voilà, si on remonte 7 ans en arrière, je ne m'attendais pas à vivre autant de choses ici. Et voilà, je profite.
Voilà, on l'a mis un peu en version longue, parce que c'est quand même assez rare dans le foot.
C'est fou, hein, un joueur qui est arrivé libre.
Qui est arrivé libre, ouais.
C'est fou, hein. De ouais. Lens, qui était au fond du lac encore à cette époque-là. Aujourd'hui, ça serait le Lens d'aujourd'hui, sans doute, qui quitterait pas Lens. Et Rennes, franchement, c'est un recrutement, sans doute, un des meilleurs recrutements de ces 20-30 dernières années.
Hein. Ouais. Ouais, ouais, puis
c'est vraiment le genre de joueur qui se forge à travers aussi le public, qui a besoin de l'interaction en fait. Il y a des joueurs comme ça qui sont performants parce qu'il y a de l'interaction. Et lui, c'est réellement ça. Il a besoin en fait d'avoir le contact perpétuel, le sentiment d'être aimé, le sentiment en fait de faire un avec à la fois un public, mais aussi un coach, des joueurs. Il peut être performant que comme ça, ouais. Finalement.
Ouais. Il est dans un club avec des valeurs et des symboles comme Lens, c'est-à-dire que vous êtes dans un club qui est populaire, dans un club qui n'est pas un top club du foot français tout le temps, et qui a eu des coups durs aussi. Et voilà, je pense qu'il est parfaitement identifié à la Bretagne en tant que Nordiste.
Il est un peu hors de son temps par rapport aux autres footeux, je trouve.
Il n'est pas bling-bling, quoi, on va dire ça comme ça. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Benjamin Bourigeaud depuis des semaines
vrai. C'est vrai.
On lui tresse les lauriers.
Et juste petit. C'est les stats, c'est incroyable. Alors, il est sur sa meilleure saison statistique en carrière, il faut quand même le savoir.
Ce qui est fou, alors qu'il fait un début de saison.
Alors qu'on se souvient, on l'avait énormément critiqué à l'automne pour des prestations très très moyennes. Et là, il en est quand même à 9 buts,
oui.
5 passes décisives depuis le début de l'année. Il n'y a pas un milieu de terrain qui fait mieux en Europe.
Je mets un bémol. L'année dernière, Rennes, 0 pénalty. Ou 1 pénalty de la saison. Cette année.
C'est sûr que ça change tout.
Il n'y a pas un match sans que.
Dernière, il ne les tirait pas non plus tout le temps. Il y avait Terrier qui les tirait un peu aussi.
C'est vrai.
Et en plus, il est polyvalent. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on s'attend à un moment à ce qu'il décline un peu physiquement. Et en fait, c'est une machine. C'est-à-dire que tu as toujours l'impression qu'il va cracher tous ses poumons. Il est une fois sur deux les mains sur les genoux. Et il galope. Il est allé faire le pressing 10 fois sur les défenseurs centraux hier encore.
Il est tout rouge au bout d'un quart d'heure.
Oui, tout rouge. Il revient du diable Vauvert souvent.
Dans les expressions.
La ligne droite de Longchamp. On va regarder quelques tweets. On a choisi un thème cette semaine, c'est les supporters marseillais. Meilleure action de cet avant-match, Herminic officiel qui va chauffer le parquage visiteur. C'est vrai que c'était génial à voir. Les faux supporters marseillais. Le Brogo sifflé par parquage marseillais. On n'aime pas la Bretagne en Mayenne. Ça me fait beaucoup rire, Philippe Maté de West France. Moi, ça me fait rire. Alors là, voilà, la Bretagne, la Provence, la Bretagne, voilà. Certainement rédigé par Dylan de Martigny-Ferchaud. Il a passé 15 jours à Fosse-sur-Mer en 2019. Et puis celui-là, le plus gros plaisir du match, c'est les gamins qui sont forcés par leur père de porter un maillot de l'OM et qui finissent par faire le « qui ne saute pas n'est pas rennais ». Et voilà, et c'est vrai.
faut quand même dire qu'on a évité un moment toujours attendu au Roazhon Park sur les raids de Marseille. C'est le moment où il y a le but marseillais, oui, et que vous voyez le nombre de personnes qui vont se lever.
À commencer, ouais, par Vincent. Oui.
Non, mais par vous qui croyez qu'on rend hommage au Tifo, qu'on rend hommage aux Marseillais. Mais alors là, je ne sais pas combien il y en avait. Il y en avait dans la tribune, mais on ne saura jamais. On ne les a pas vus se lever. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Hein. Après, ils sont tous repartis à Cadillac, à Mainrock. Ils n'ont pas tellement de route pour retourner chez eux, les faux supporters marseillais. Le groupe Rennais est en vacances, messieurs.
Oui, six jours. De belles vacances, hein, presque plus que sur une trêve hivernale.
Autant qu'à Noël.
Oui, autant qu'à Noël. Ils reprennent que dimanche midi pour ceux qui, évidemment, ne sont pas en sélection. Après, ils en ont besoin, on peut le croire. Hein,
C'est très rare.
Plus que Xavier Grimaud sur toute l'année.
Plus de vacances que Xavier sur toute l'année.
Brest reprend jeudi, par exemple. Lorient reprend mercredi. Nantes reprend. Nantes, ils ont un nouvel entraîneur.
Donc, ils reprennent cet après-midi.
Non, ils reprennent demain, mercredi. Donc, effectivement, c'est rare, mais ils ont sans doute besoin de se réoxygéner.
Faire du jus, et puis la ligne droite va être intense. Ouais. Mais si le staff le fait, c'est qu'il est à peu près sûr que, à mon avis, les joueurs partent avec aussi quelques exercices à faire sur un plan perso, parce que vous arrêtez jamais complètement.
Le staff espère les mêmes effets en fait que ce qui s'est passé à trêve hivernale. Et d'ailleurs, il nous l'a dit hier, Julien Stéphan, après le match. Voilà, en fait, cette période-là avait été capitale pour se ressourcer mentalement, et c'est comme ça que la série avait démarré en fait derrière. Et là, voilà, en fait, c'est le deuxième effet qui se coule, espéré. Ouais.
L'effet qui se coule, pas mal aussi, ça. Hein.
L'effet qui se coule de Longchamp, ça marche pas.
une semaine. Alors après, il va y avoir des variations entre ceux qui vont en sélection. Il y en a beaucoup, y compris Théâtre. Moi, je me disais, Théâtre, il va pas bien, il a pas joué, il va pas partir.
C'était léger, a priori. Il pouvait pas jouer ce match-là, a priori. Il jouera sûrement pas le premier match de la Belgique. Il y a peut-être un espoir pour le second, mais il va y aller. C'est toujours aussi différent avec des joueurs qui... Théâtre, il est amené à jouer l'Euro cet été. Donc, il faut qu'il soit dans ce groupe-là, même s'il n'est pas à 100% de ses capacités. Donc, c'est normal qu'il y aille.
Puis en sélection, vous avez un staff de réathlétisation aussi. Donc, il va pas non plus faire des sprints dès demain.
La sélection belge, ils aiment bien constater les blessures aussi.
Oui. Comme l'Algérie, qui était fâché de l'avoir mal constaté avec Guiri.
Hein. Mais ils seront en effectif réduit. Ils reviennent dimanche à l'entraînement. Ouais. Ils seront 9.
Ouais. Donc on va avoir une trêve parce que le plus dur est à venir. Xavier,
le plus important en tout cas, le calendrier il est pas simple malgré tout. Il y a quand même Monaco, il y a quand même Brest, mine de rien, qui serait un concurrent direct.
Lens à la maison.
Lens évidemment. Donc oui, là maintenant, comme on le disait tout à l'heure, il y a pas de joker, quasiment pas de joker pour accrocher le sixième. Et deux déplacements pour débuter.
Trois déplacements avec la coupe. C'est quand même la semaine après la trêve internationale, elle va être capitale à tous les niveaux, parce que psychologiquement aussi, ce que va sortir de cette période-là, les trois matchs, ça va conditionner forcément aussi toute la.
Mais
toute
ça
la
se jouera la dernière journée à Reims et on y sera.
Oui. Pour le sacre.
Voilà, pour le sacre.
Pourquoi j'irai pas à Reims ?
Parce que vous ne vous déplacez jamais.
Mais si, quand j'ai des pleines lucarnes le lendemain, c'est compliqué. Vous voudriez que j'aille loin, mais il faut être là, il faut assurer son travail. Est-ce que pendant les 15 jours, on va avoir la prolongation de Julien Stéphan ?
Vraisemblablement, oui.
Oui, vous dites non, vous dites.
Non, je dis pas que non, je dis l'officialisation, peut-être pas forcément. Après, oui, il va y avoir l'accord, il devrait être trouvé dans les 15 jours. Pas la semaine, effectivement, parce que là, il va y avoir une petite pause pour tout le monde, y compris pour les dirigeants. La semaine prochaine, probablement, oui, ils vont quasiment tomber d'accord, a priori, sur les conditions. Mais il y a quand même des choses encore à discuter pour trouver un accord.
Ça peut être quoi, ces choses à discuter ?
L'organisation globale.
Certains détails aussi du contrat.
Mercato aussi financier, forcément.
Ouais. Mais je pense que l'actionnaire, là, il voit que Rennes bat Marseille, que Rennes est dans le peloton. Pour rassurer tout le monde avant ce sprint final dont on disait tout à l'heure qu'il allait se jouer entre 9 ou 10 équipes, autant avoir des certitudes et pas avoir des interrogations comme Lille a pu en avoir l'année dernière avec Fonseca dont on ne savait pas s'il restait ou pas.
C'est surtout que le Stade Rennais a besoin de retrouver un équilibre quand même. C'est-à-dire que depuis le Bruno Genesio, ça a été... du jour au lendemain, vous êtes passé d'un équilibre à peu près sûr à un séisme et quelque chose, des mois d'incertitude, comme vous le dites. Et donc, ça vient amener de l'équilibre. C'est ça qui est peut-être le plus important. C'est ramener un équilibre plus que rassurer tout un chacun.
Après l'incertitude, il y a la compétition. Et on le voit bien, actuellement, il n'y a pas de stabilité sur la durée. Mais ça n'empêche pas l'équipe d'avoir des résultats. Donc, c'est vrai que ça occupe beaucoup les commentateurs. Est-ce que dans un groupe, entre ceux qui aimaient beaucoup Genesio, qui se sont remotivés, ouais, qui aujourd'hui ouais, aiment bien Stéphane.
Mais tout le monde. Oui, mais.
Ouais. Je suis assez d'accord avec Edouard.
Pour moi, ils jouent.
Mais les joueurs, moi, ils pensent à leur avenir.
Julien Stéphane, il a gagné le droit de, qu'on réfléchisse et qu'on pense et qu'on le prolonge, très certainement, avec ce qu'il est en train de faire. Moi, je vois pas forcément l'urgence de le faire.
Bref,
exactement. On aurait pu attendre la fin de la saison. Et en plus, Stéphane avait toujours peut-être une autre posture de dire moi, je n'attends rien, je demande pas une deadline, quoi que ce soit. S'il n'y a pas de deadline, on aurait pu clairement attendre le mois de mai. Ouais. Mais voilà, moi, je pense pas que les joueurs, ça les touche de savoir qui sera l'année prochaine. Là, ils ont envie de
en sauver revanche, il y a des questions sur les tandems ou les trios. Évidemment. Et le directeur sportif, typiquement, vous préparez pas la saison prochaine au mois de mai. Donc, il faut aussi avoir une visibilité de ce côté-là.
Eh ben, on en parlera au prochain Pleine Lucarne, qui aura lieu dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, évidemment...
Ah, vous prenez 8 jours aussi de vacances, vous ?
Non, ouais, j'ai d'autres choses à faire, vous savez. Mais oui, je ne serai pas là. Hein. Je serai pas là lundi prochain. On va regarder quand même le tableau des pronos. Tout le monde avait donné une victoire de Rennes, pratiquement. Donc, ça ne change pas grand-chose. Thomas, vous êtes toujours en tête, mais David Thomas, qui a le bon écart, est revenu à votre hauteur. Xavier, ben, on est un peu tous pareils, hein, dans le ventre mou.
On est sauvés, là ? Non, pas encore.
Non, on n'est pas sauvés. Jeanne Rigaud a beaucoup de mal, et Clément Gavard, qui est de la team optimiste, comme tout le monde sait, est tout en bas. Voilà ce qu'on voulait vous dire. En tout cas, on espère qu'on vous a accompagné bien sur ce lundi, pour ce début de semaine. Merci à tous les quatre d'avoir été ici sur le plateau de Pleine Lucarne. Portez-vous bien, 15 jours tranquilles, et puis après, le vrai sprint final. D'ici là, donc, allez Rennes.
D'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie. Fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Pigeot Immobilier, la française immobilière, Habitant, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.